Les rendez-vous de midi, exceptionnellement enregistrés donc avec Emmanuel ce mardi 29 mars, a été choisi comme journée mondiale du 3Q29. C'est un syndrome très rare dont est atteint le jeune Dewey, 12 ans. Il est présent, en tout cas présent lors de l'enregistrement avec son papa Samuel Bordage. A tout de suite sur Neuve.
Il y a un an, quasi jour pour jour, nous évoquions à l'antenne un syndrome rare assez récemment découvert, le 3Q29, syndrome de microdélétion. On va tout expliquer de nouveau aujourd'hui, 29 mars, journée internationale de cette maladie orpheline. Avec nous, comme l'an passé, Samuel Bordage, papa de Dewey, qui aujourd'hui est aussi présent pour parler de son vécu, car Dewey est le premier concerné. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour, comment Ariane.
Alors, à la fin de l'interview l'an passé, moi, je lançais une invitation pour 2022. Vous me disiez, Samuel, que Dewey serait prêt à venir. Et là, donc, t'es présent. T'as entendu mon invitation, t'avais envie de venir.
Oui, ça c'est vrai.
L'an passé, j'ai appris aussi que lorsque l'interview de ton papa est passée le matin, quand t'es arrivé à l'école, t'as appris que beaucoup de gens l'avaient entendu. Comment ça s'est passé?
J'étais surpris. Surpris de surpris.
Et alors, qu'est-ce qu'on t'a dit de l'interview?
Moi, en tout cas, j'étais avec la chauffeuse, du coup, on a entendu pas beaucoup parce que à un moment, ça s'est arrêté, il y avait la musique là qui est passée, du coup, ils ont changé de radio, vu que c'était presque terminé.
Mais à l'école, t'as des petits copains, des copines, ton instinct, t'as entendu l'interview?
Oui.
Et ça t'a fait plaisir?
Oui. Beaucoup.
Donc aujourd'hui, c'est toi qui vas témoigner. Alors, on va expliquer un petit peu tout ça. Déjà, on est voisins puisque vous êtes installés depuis quelques temps, donc depuis quelques années maintenant à Saint-Gervais.
Oui, exactement. On a acheté à Saint-Gervais, ça fait maintenant 5 ans.
Donc c'est pas à Saint-Gervais que Dewey est né, hein?
Non, du tout. À l'époque où on était sur la... Enfin, on n'était même pas encore sur la région parisienne, on était sur la région berrichonne.
Il y a 12 ans maintenant, à quel mois?
Alors, Dewey est né un 1er décembre à minuit 31.
on va tout savoir de toi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu as 12 ans, tu es en 6e au collège sur l'île de Loire-Moutier.
Oui, au collège Molière, tout ce que Molière, je connais l'adresse.
Un collège public, alors un choix qui n'est pas anodin, on va le comprendre aussi, Samuel. Vous nous aviez expliqué l'an passé, donc voilà, le syndrome dont est atteint votre fils. Un reportage en matinale, là on a beaucoup plus de temps, donc on va pouvoir vraiment expliquer bien les choses. Je vous propose de nous rappeler un petit peu, de nous raconter son histoire. Et la vôtre, hein, Dewey, c'est votre premier enfant déjà.
Oui, tout à fait. Dewey était notre premier enfant, notre fils qui est arrivé effectivement un soir de décembre.
Les premiers mois se passent sans souci. C'est une assistante maternelle en fait qui, au bout de quelques temps, au bout de quelques années peut-être, va vous alerter entre guillemets sur des retards de croissance, d'apprentissage.
Oui, c'est à peu près ça. Dewey a à peu près 2 ans. Son assistante maternelle qui le garde donc déjà depuis quelques temps, parce qu'elle le garde déjà depuis qu'il a l'âge à peu près de 9 mois, nous alerte et un jour nous convoque entre guillemets avec la maman et nous explique que par rapport aux autres enfants qu'elle garde, elle s'aperçoit que Dewey a un retard par rapport aux autres. Et retard auquel, effectivement, nous, on s'en est un petit peu aperçu parce que fatalement, on a aussi dans notre entourage des enfants qui ont à peu près son âge, et on voit bien que par rapport aux autres, il est un petit peu en retard. Donc elle nous alerte là-dessus. Nous, on en discute avec notre médecin traitant. On lui explique, lui part du principe qu'il n'y a rien forcément d'affolant, dans la mesure où Dewey est né prématuré, on va dire, pas forcément grand, mais prématuré en tous les cas, et qu'il faut lui laisser le temps de se développer.
Quel type de retard en fait sont évoqués?
Alors il a beaucoup de mal à marcher, il a marché très tard. En plus de ça, il y a aussi une deuxième petite alerte qui est le fait qu'il avait les dents qui ne poussaient pas. Et là, effectivement, beaucoup de gens nous disent, bah, de toute façon, on n'a jamais vu des gens sans dents, ou alors ils ont perdu au cours de leur vie. Et c'est vrai que quand on est parent, on est un petit peu démuni face au corps médical.
Mais qui en fait l'était aussi, autant que vous, tout simplement.
Qu'il était autant que nous, ou qui tout simplement en fait se rendaient pas forcément compte parce que eux estimaient qu'il y avait certaines choses qu'il était en capacité de faire, que d'autres enfants n'étaient pas en capacité à cet âge-là. Et du coup, pour eux, ça paraissait logique en disant, voilà, ça c'est quelque chose qu'il est capable de faire alors que c'est quelque chose qui est assez difficile pour son âge. Et l'autre chose qu'il n'est pas en capacité de faire, oui, c'est quelque chose qui est un peu plus facile, qu'il devrait savoir faire, mais bon, ça peut arriver.
Ouais. Et ça viendra, en gros, c'est un peu l'idée. Il rentre à l'école, une nouvelle fois, l'instit vous alerte, évoque quelques retards, on vous rassure encore, et puis c'est, j'ai envie de dire, à la faveur, entre guillemets, de crise d'épilepsie, que là, on va aller un petit peu plus loin du point de vue du corps médical.
Oui, effectivement, il commence son année de maternelle, et là, rebelote, l'institutrice nous convoque avec la maman, Et elle nous explique que Douy a un retard par rapport aux autres élèves, donc on lui explique qu'on en a conscience, mais que les médecins nous disent que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc là, on retourne voir notre médecin traitant, qui nous dit, tout va bien dans le meilleur des mondes, il faut pas du tout s'affoler là-dessus. On va voir un pédiatre, qui nous dit exactement la même chose, et on se trouve, pour des raisons professionnelles, à déménager sur la région parisienne, et donc il est toujours en petite section de maternelle, et là rebelote, l'institutrice nous convoque et nous dit la même chose. Donc on lui explique qu'on n'a pas d'œillère, hein, qu'on n'est pas non plus neuneux entre guillemets, qu'on comprend, qu'on le voit, mais que derrière on n'a aucune écoute. Là-dessus, Douy va nous faire des crises d'épilepsie sur quasiment 2 jours d'affilée sur un week-end. Une première crise le vendredi soir. Donc je l'emmène une première fois aux urgences. Les urgences me disent il n'y a rien, tout va bien, je vois pas où est le problème, rentrez chez vous. Il continue tout le week-end à en faire, et le dimanche soir il en refait des grosses, et là je repars aux urgences avec lui. Et au moment où on arrive aux urgences, il me fait, dans l'accueil des urgences, une crise d'épilepsie devant tout le monde. Et là, on me prend au sérieux. D'ailleurs, c'est la seule fois où j'ai été aussi vite aux urgences. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai été mis dans un box. Tout de suite, j'ai 2 ou 3 médecins qui sont arrivés autour de moi. Autour de nous, en fait. Et là, j'aurais dit que c'était pas possible, que ça commençait à suffire et qu'il fallait faire quelque chose. Et du coup, il a été hospitalisé pendant à peu près une semaine. Et pendant cette hospitalisation, dès qu'il faisait une crise, il fallait que j'avertisse le médecin. Mais bon, vous savez comment ça se passe malheureusement dans les hôpitaux déjà à cette époque, en 2013. Il y a un manque de personnel, donc dès que vous appelez le médecin qui arrive 5 minutes après, c'est trop tard, donc il voit plus rien. Et en fait, j'ai eu la chance qu'une infirmière, à un moment donné, on parlait tous les deux, et Douy a fait une crise devant elle. Et j'en étais arrivé à un point où, comme les médecins voulaient pas me croire à l'hôpital, j'avais demandé à ma femme de ramener la caméra et je filmais Douy pendant ces crises pour faire voir aux médecins. Et le médecin me disait, mais non, ok, admettons. Et en fait, la chance, entre guillemets, qu'on a eue, c'est qu'on a eu effectivement une infirmière qui, à un moment donné, était là quand il a fait une crise. Et lorsque le lendemain matin, le médecin a fait sa visite, cette infirmière était là et est venue. Il lui a dit, écoutez, docteur, je me permets d'intervenir. Moi, hier, j'étais là pendant une crise d'épilepsie. Et effectivement, c'est quand même assez impressionnant. Et honnêtement, je pense qu'il faut écouter monsieur et je pense qu'il y a un souci.
Je bourre vous écoutant. J'imagine vraiment l'angoisse de ne pas être entendu.
C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que vous avez en face des médecins qui vous disent... On est médecin, ce qui est vrai, hein, ça je ne remets pas du tout en cause, mais qui n'écoute pas en fait les gens qui vivent avec les patients qui sont là. Et c'est extrêmement compliqué parce que à un moment donné, vous vous dites, mais est-ce qu'on va nous entendre ? C'est-à-dire que on n'est pas fou, on n'est pas neuneux, on a des gens encore autour de nous qui ont des enfants du même âge, on voit qu'il y a un souci, on le dit, on le crie. Et on nous dit, non, tout va bien. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement compliqué.
Donc là, on va vous écouter, on va vous entendre, et les analyses vont être un peu plus poussées?
Déjà, première chose, ils font un électroencéphalogramme. Donc ils s'aperçoivent qu'effectivement, il n'a pas de courbe typique de l'épilepsie, mais il a une courbe qui n'est pas normale. Donc ils décident de le mettre sous antiépileptique. Et en même temps, par rapport à ce que je leur ai dit, ils décident de faire une recherche chromosomique. Voilà. Donc ils font une recherche chromosomique donc sur Douy et sur ma femme et moi pour voir si nous sommes aussi porteurs potentiellement, pourquoi pas, d'un problème chromosomique tous les trois.
Et là la réponse elle arrive vite ?
La réponse arrive, peut-être un mois après par téléphone, tant qu'à faire, où le médecin m'appelle en premier et me dit, votre enfant, on a eu le résultat, il a une délétion chromosomique en 3Q29. C'est de nouveau, ce qu'on appelle de nouveau, c'est-à-dire que lui là, mais vous n'êtes pas porteur et votre femme non plus. Et donc là commencent à arriver les questions au médecin. Et la réponse ne se fait quasiment pas attendre. Elle me répond, écoutez, moi franchement, maladie chromosomique, j'y comprends rien. Vous avez rendez-vous en urgence dans 6 mois chez le neurologue, vous verrez ça avec lui, mais moi personnellement j'y connais rien, donc je peux pas vous indiquer. Bon courage, au revoir.
En urgence dans 6 mois.
En urgence dans 6 mois, effectivement.
On vous retrouve, donc et là, vous allez un petit peu découvrir. Petite parenthèse, si Douy était né quelques années seulement auparavant, on n'aurait pas découvert ce syndrome.
Non, parce que, suite à ça, donc on a eu la chance de rencontrer une médecin scolaire à qui on a raconté notre histoire parce qu'on était en réunion avec l'école, parce qu'on voyait que ça allait pas. Et donc on voulait mettre des choses en place, notamment une AVSI. Et cette médecin scolaire, en lui expliquant notre parcours, nous a dit, écoutez, moi j'ai une amie de promotion qui est généticienne à la Pitié-Salpêtrière. Voilà son numéro de téléphone, je vous fais un certificat médical, vous l'appelez de ma part. Et on a été reçu relativement rapidement, et donc pas par son amie généticienne, mais par une collègue à elle, et qui nous a expliqué qu'en fait, la délétion chromosomique en 3Q29, on l'a trouvée depuis 2011, en fait. Donc avant 2011, elle n'était pas détectable, parce que les analyses ne pouvaient pas être aussi poussées.
Alors on va expliquer ce que c'est qu'une délétion chromosomique, vous l'aviez très bien expliqué dans le passé. Le 3, c'est le chromosome, et il manque un tout petit bout à ce chromosome, c'est ça?
Voilà, donc en fait, un chromosome, si vous voulez, c'est composé, on pourrait pour schématiser, un bonhomme sans tête, voilà, avec les bras en l'air et les jambes en bas. Et vous avez le 3, donc c'est le troisième chromosome. Le Q, c'est la partie basse du chromosome, c'est-à-dire là où vous avez les jambes, pour schématiser. Et le P, c'est là où vous avez les bras en l'air. Et 29, c'est la toute fin de ce chromosome, donc la toute fin des jambes, en fait, qu'il manque.
Donc c'est un tout petit bout et ça change quand même pas mal de choses, mais je crois que les changements sont assez variables selon les enfants concernés. Alors Dewey, t'as été très patient. Évidemment, tout ça, tu connais hein, cette histoire, mais moi, je vais t'interroger un petit peu sur ce que tu vis, sur la manière dont tu vis tout ça. On fait une petite pause et on revient dans 3 minutes.
Juste après, et en nouveauté maintenant, côté musique, sur Neuve, Isia, mon cœur. Elle est de retour avec ce titre, Mon cœur, c'est sur Nova l'instant. C'était le retour donc de la chanteuse Easy à la suite. Et jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi aujourd'hui, le thème autour de la journée mondiale du 3Q29. On retrouve Emmanuel.
Ce 29 mars, journée du 3Q29, une maladie orpheline qui atteint une petite partie du chromosome 3 et qui a des répercussions sur notamment le développement, certaines motricités. Dewey est avec nous aujourd'hui, avec son papa Samuel Bordage. Vous vivez à Saint-Gervais, tu as 12 ans. Et tu fais partie d'une toute petite poignée d'enfants qui ont été diagnostiqués en France. Je crois même que ce sont quelques dizaines seulement d'enfants, et peut-être un peu plus grands maintenant, qui sont concernés dans le monde. Comment est-ce que tu vis le fait de vivre quelque chose de très très rare en toi ?
En gros, comme tous les matins, je me lève des fois tôt, ou des fois je me couche tard.
Est-ce que tu ressens que tu as quelque chose de très rare, ou c'est pas quelque chose à laquelle tu penses?
Je ne sais pas, mais papa, je sais. Par contre...
Alors vous avez un enfant qui a quelque chose de très rare en lui, Samuel.
Oui, tout à fait. Nous, c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce que lui ressent cette différence par rapport aux autres? Et visiblement, la réponse est non, il vient de l'apporter lui-même.
Tu te sens pas différent, dis oui.
Un peu.
Un tout petit peu. Quoi qu'on est tous différents, donc c'est un petit peu difficile, je trouve, comme question, mais... Qu'est-ce qui te différencie, toi ?
C'est surtout le sport, parce qu'au cross, j'ai fini 18e. Du coup, moi, j'ai voulu finir vers les 10e, et du coup, je suis arrivée 18e.
Alors, c'est un exemple. Vous nous parliez effectivement l'an passé de cette différence entre motricité fine ou pas. La motricité fine, il n'y a aucun souci pour du oui.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les enfants qui ont une déficience chromosomique en 3Q29 ont en général une psychomotricité générale globale très très faible. En fait, ils sont très nuls. C'est-à-dire, en gros, marcher, courir, sauter. Et une psychomotricité fine qui, là, ça va être la tenue du stylo, la façon d'écrire, qui elle du coup va être très très bonne. C'est pour ça que les médecins ont beaucoup beaucoup de difficultés, parce qu'ils vont vous dire d'un côté ok, il n'arrive pas à sauter machin, mais de l'autre côté il tient très bien son stylo, il écrit très bien.
Donc il écrit très bien, oui, t'aimes bien écrire, t'aimes bien dessiner aussi?
Je dessine des fois des paires de chaussures sur neige ou un truc comme ça, mais aujourd'hui j'ai essayé de ramener, mais je sais comment je dessine des chaussures, je dessine comme ça.
Non, on voit pas, mais moi je vois, hein. Comment tu dessines. Et t'as oublié d'apporter le dessin.
Ouais, c'est ce que j'ai oublié.
Bon, en tout cas, voilà, le sport, c'est pas forcément ton truc, quoique je t'imagine bien aimer le sport quand même, non?
Non.
Je me trompe. Est-ce que t'as besoin d'un suivi? Est-ce que t'as vu des kinés, des orthophonistes? Alors, je sais pas.
Oui, j'en ai eu. J'en ai eu d'orthophonistes. Ah, j'en fais plus. 4.
4 ou 5.
4 ou 5, mais aujourd'hui, c'est de moins en moins.
Oui, effectivement. Il a fini les séances d'orthophoniste il y a à peu près un an. La dernière fois, c'était à Saint-Gervais, il y a été à peu près une année.
Bon, aujourd'hui, tu es au collège, sur l'île de Noirmoutier, parce qu'il fallait un collège à taille humaine. C'était ça un peu l'idée, Samuel?
Oui, exactement. Quand s'est posé la question du collège avec Douy, on a préféré le mettre dans un collège à taille un peu plus humaine, c'est-à-dire c'est à peu près 200 élèves, ce qui est quand même complètement différent de d'autres collèges qui sont beaucoup plus grands dans le secteur. Donc on a préféré qu'il soit un peu plus éloigné, avec un peu plus de route malheureusement, mais dans un collège à taille plus humaine pour lui.
Pas de la chance, tu vas tous les jours sur l'île de Noirmoutier. Comment ça se passe la 6e là ?
Bien, mais des fois, ça va en cacahuète dans le collège, des autres et tout, ça va des fois en cacahuète. Ouais,
ça c'est pour tout le monde, hein, non ?
Si. Un peu, mais c'est pour juste pour dire qu'il faut être gentil dans la vie. Pas faire de conneries, ni de faire des bêtises, avoir aucun manteau sous carnet, trucs comme ça.
Toi, t'es gentil et sérieux?
Oui.
Est-ce que t'as des envies? Est-ce que tu sais, bon, t'es jeune, hein, 12 ans, mais est-ce que t'as des idées de ce que t'as envie de faire plus tard?
J'aurais pas arrêté Rolls Royce de luxe de OTT comme Rolls Royce, Lamborghini, Bugatti, Chiron, Veyron, la voiture la plus rapide du monde, quand j'ai du sarfin et riche et tout. Hein.
Des voitures de luxe, hein, c'est pas n'importe lesquelles.
Ouais, c'est soit limousine, soit des grosses voitures, soit des limousines avion, soit des limousines, soit des limousines Lamborghini ou Ferrari.
Je sens qu'il y a une passion là, Samuel.
Oui, il est très passionné par le reportage en général et par les voitures en particulier.
J'entends ça, et les voitures de luxe, on précise. T'avais envie de témoigner aujourd'hui, tu avais envie de venir, hein, radio et parler. Pourquoi ?
Parce que c'est intéressant d'aller dans une radio. Au moins, tu découvres comment c'est fait. Tu vois comment c'est fait le système, tes trucs. Du coup, il faut bien découvrir un truc dans la vie. Hein.
Et donc, tu as découvert la radio que je crois que tu écoutes assez régulièrement. Alors aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir sur le 3Q29. C'est la journée de ce syndrome. Aux États-Unis, une recherche, et je crois que c'est l'unique au monde, en tout cas, a priori, c'est ce que vous me disiez, Samuel, l'an passé, a été lancée. Vous y participez, vous participez tous les ans.
Oui, alors il y a effectivement aux États-Unis, et d'ailleurs, je voudrais la remercier, même si je ne suis pas sûr qu'elle nous écoute, mais le docteur Jennifer Mull, qui correspond à un professeur aux États-Unis et qui fait une recherche effectivement là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, tous les 18 mois, donc tous les ans et demi, elle nous envoie une batterie de questions qui doit représenter à peu près une 200 à 300 questions en anglais. Et en fait, elle décortique tout ça. Et là, depuis quelques temps, elle fait des Facebook Live ou des Zoom de manière à ce que les parents puissent discuter entre eux. Donc c'est assez intéressant. Alors moi, j'y participe pas parce que je suis pas très très bon en anglais. Donc je préfère ne pas y aller vu que tout se passe en anglais. Par contre, effectivement, oui, c'est la seule à faire des recherches là-dessus.
Et vous avez pu entrer en contact avec des familles en France ?
Oui, alors en France, j'ai réussi à rentrer en contact. J'ai créé un groupe Facebook vraiment juste français, donc on fait partie de celui qui est américain. Et en parallèle, j'ai créé un groupe français. On doit être 5 ou 6, quoi. Et de toute façon, c'est ce qui... Alors, je crois que dans le Loup, il y a une famille belge. Et de toute façon, c'est en gros ce qui représente le nombre d'enfants qui sont atteints de ce syndrome-là en France. Sachant que le dernier qui a été découvert, ça fait à peu près 2 ou 3 mois où j'étais en contact avec la maman, qui a découvert à 16 ans que son fils avait une délétion chromosomique en 3Q29 et qui, elle, se bataillait depuis que son fils avait 6 ans pour faire reconnaître par les médecins. Et effectivement, quand vous apprenez 10 ans après que votre fils a ce syndrome-là et que vous êtes battu et qu'à chaque fois on vous a renvoyé un peu sur les roses, c'est extrêmement compliqué.
Et donc c'était pour vous important, comme l'an passé, de venir sur cette journée particulière, témoigner ?
Oui, tout à fait. Quand on voit Douy, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on s'en aperçoit pas qu'il est en situation de handicap. Et en fait, le message, c'est d'abord d'une, de penser à ces maladies rares, parce que c'est pas la seule. Ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, de ne jamais juger les gens quand vous les croisez dans la rue. On peut pas savoir les gens ce qu'ils ont. On peut parfois croiser une personne, penser qu'elle est tout à fait normale, et au final s'apercevoir que c'est une personne qui est malvoyante, qui est malentendante, ou comme Douy, qui a des difficultés. Et ça, c'est vraiment un message qui me tenait à cœur à faire passer.
Je remercie beaucoup, je te remercie Diouby d'être venu aussi, de votre témoignage. Et pour moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai souvent entendue, quand il y a un petit bout de chromosome en moins, c'est qu'il y a aussi quelque chose en plus par ailleurs.
Oui, bien sûr. Alors en plus, c'est qu'il est très câlin. Et comme on est très câlin à la maison, ça, c'est que du bonheur.
C'est que du bonheur. Merci Diouby. Bah, écoute, travaille bien pour peut-être réparer nos voitures de luxe. Moi, j'aimerais bien avoir une un jour, plus tard.
Et j'ai aussi en chasse une photo de lui, c'est votre vidéo, je peux la montrer ou pas ?
Alors, on a la radio, donc moi, tu vas me la montrer à moi, mais pas aux auditeurs. Je te remercie beaucoup, Diouby. Merci, Samuel. Et puis, voilà, on retrouve l'émission en podcast. C'est une très, très belle journée à tous que je vous souhaite.